Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue Lisette Lombé.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette table ronde et pour répondre à votre question. Oui, c'est un exercice qui me plaît de donner la parole aux autrices, surtout quand elles arrivent avec des livres aussi forts. Alors peut-être que pour dire quelques mots, en préparant cette rencontre, j'ai d'abord été très heureuse de découvrir que vous avez un site internet. Vous faites partie de ce genre d'auteurs et d'autrices qui sont assez rares et qui ont un site internet très bien renseigné. Et pour nous, journalistes, c'est toujours une assez bonne nouvelle de se dire qu'on a toutes les informations rassemblées. Et en me plongeant dedans, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, parce que votre parcours est éminemment protéiforme, pluriel, passe frontières, comme vous le dites, et que ça ne simplifie pas la tâche pour vous présenter et vous résumer. Vous êtes poétesse, slameuse, performeuse, romancière, colleuse, animatrice d'ateliers d'écriture. Vous avez cofondé le collectif Elle Slam. Je n'ai cité que quelques-unes de vos casquettes. On a une heure pour creuser et pour apprendre à vous connaître. On va attraper le fil par la pelote par le fil le plus immédiat, qui est la parution en septembre de Nice. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un premier roman? Comment est-ce que ce texte se classe dans votre bibliographie qui compte bientôt une dizaine d'ouvrages publiés?
Bonjour. ma maison d'édition Le Seuil n'a pas positionner le livre comme un premier roman, parce qu'en Belgique, il existe déjà un court roman qui s'appelle Vénus Poetica, mais il est noté dessus court roman, parce que ce n'était déjà plus un recueil de poésie. Et pour le moment, dans les prix, on voit que, et dans les interviews radio, on voit que ça alterne premier roman, deuxième roman. Donc moi, je ne me tracasse pas trop des étiquettes. Ce que je peux sentir, c'est que c'est le plus long des textes que j'ai écrit en tant que poétesse. On a une écriture dense. On écrit des recueils de poésie en slam, c'est des textes qui font maximum 3 minutes et qu'on partage avec un public a cappella. Et là, il se fait que le nombre de pages, la narration, des personnages, de la fiction font que c'est un roman.
Alors, Eunice, moi j'aime bien faire ça avec les prénoms dans les romans parce que c'est jamais des choix anodins. En grec, ça veut dire la victoire. Pourtant, au début du roman, Eunice est loin de ce qu'on pourrait assimiler à une victoire, à un succès, quelle que soit la définition qu'on lui donne. Elle vient de se faire larguer par son petit ami et au réveil, elle apprend dans la foulée, par une quinzaine d'appels en absence de son oncle et de son père, de sa tante et de son père, que sa mère s'est noyée la nuit dernière pendant une fête à laquelle elle assistait. Et puisque la performance du langage a autant de place dans votre vie, je vous propose qu'on lise le tout début de ce texte, si vous êtes d'accord.
Oui. Rupture. Le mot n'est pas prononcé tel quel. Détour, périphrase, excuse, minable. C'est mort. Ça puait déjà la fin de l'histoire depuis hier soir. Le truc très important qu'on préfère ne pas te dire par écrit, le resto romantique qui switch en simple verre d'afterwork, le ton faussement détaché. Tu observes ce bec froid et métallique qui recrache de la ferraille sans aucune valeur, souffle coupé. Il dit que tu ne dois rien te reprocher, Eunice. Tu es vraiment une nana très cool, tu mérites juste de tomber sur un gars plus investi. Vous pouvez rester pote et tu peux garder la bague que tu tritures sous la table si tu veux. La bague. S'il n'y avait pas eu cette bague ramassée sur un trottoir quelques mois auparavant, cette bague offerte, un genou au sol en imitant un personnage de théâtre éperdument amoureux de sa dulcinée, il n'y aurait pas eu ce débile entichement. Il jouait, Eunice. Il jouait. Tu t'es emballée comme une midinette. Te voilà conne et vulnérable. Tu masques. Tu badines, tu abrèges, tu voudrais crever.
Merci beaucoup. Peut-être puisqu'on commence aussi fort avec elle, in medias res presque. D'où est-ce qu'elle vous est venue, cette jeune femme? Comment est-ce qu'elle vous s'est imposée à vous au point que vous en fassiez un roman?
En fait, je suis entourée par une belle garde de jeunes poétesses. Moi, j'ai commencé sur le tard, la scène. Je suis montée sur scène pour la première fois à 36 ans, à la suite d'un burn-out. Et ce que j'observe autour de moi, c'est des poétesses qui ont plutôt la vingtaine, qui sont déconstruites, qui se disent féministes, qui sont très engagées, qui ont construit des familles de cœur avec des belles sororités. Ce n'est pas forcément le cas des femmes de ma génération et encore moins des femmes de la génération de ma mère. Et après, dans le cercle proche, j'observe ma nièce aussi, ma filleule, j'observe ma fille qui est plus jeune que Nice, évidemment, elle est petite, mais j'ai trois enfants et j'observe cette génération. J'ai travaillé avec d'autres poétesses sur la mémoire de mères qui avaient perdu en fait leurs enfants en Amérique du Sud, des enfants enlevés, des hommes principalement, ou des frères ou des maris enlevés par les régimes en Amérique du Sud, les régimes dictatoriaux. Ces femmes n'étaient pas politisées, et pour défendre la mémoire, pour retrouver les corps tout simplement de leurs proches, elles ont dû se politiser, elles ont dû commencer à manifester. Et donc moi, ce travail-là sur la mémoire de ces femmes m'a fait venir l'image d'une métaphore, d'une cascade inversée. C'est-à-dire comment la jeune génération revient vers nous. C'est identiquement pareil pour ma mère. Ma mère, moi j'ai découvert aussi le féminisme sur le tard. Ma mère non plus n'était pas féministe, mais il se fait que maintenant elle a deux filles poétesses qui se disent féministes, et tout d'un coup, il y a une cascade inversée qui remonte aussi vers elle, et le personnage de Nice, il est né de là. D'observer cette génération qui a été, comme nous, touchée de plein fouet par le confinement, qui vit dans un monde en accélération fulgurante, en questionnement de sens perpétuel. Moi, je suis encore dans l'entre-deux générations. Je ne suis plus tout à fait comme ma mère, c'était la ligne droite, le travail qu'on garde jusqu'à la retraite. Je suis dans cet entre-deux. Et puis j'observe une génération plus jeune où il y a tout qui s'accélère. C'est tout à fait normal d'avoir plein de... Voilà, même nous, quand on a lancé notre collectif en Belgique en 2015, on était sur des thématiques droits des femmes, racisme. Ça, c'était l'endroit de sens pour nous. Et puis maintenant, on observe les questions de non-binarité, les questions... ça s'accélère, en fait. Et je voulais parler de ça, de cet endroit-là.
Alors justement, toutes ces générations, vous les mettez, vous les rassemblez en fait dans ce livre, puisqu'il y a toute une galerie de personnages secondaires, la garde rapprochée, ou qui va devenir la garde rapprochée de Nice. Peut-être qu'on pourrait, pour les personnes qui n'ont pas encore découvert ce livre, faire un petit portrait de famille, puisqu'il est aussi beaucoup question de transgénérationnel dans cet ouvrage. Peut-être que je peux vous l'introduire par la même question. Comment est-ce que ces personnages secondaires ont pris chair et corps? Comment est-ce que leur glaise s'est manifestée sous vos doigts?
Au départ, il y a la mort de la mère de Nice, qui s'apparente à ce qu'on appelle improprement un fait divers, alors que c'est un grand fracas pour la famille. Et puis autour, il y a son père, il y a son frère. Il y a une tante, il y a les grands-mères, il y a une constellation familiale. Et ce que je voulais aborder avec ce roman Eunice, c'est le fait que par rapport au deuil, je sais qu'en psychologie, en psychanalyse, on a comme ça un chemin de deuil, pas juste pour les morts, mais pour les ruptures, pour les grands changements de nos vies. On a un chemin qui démarre du déni, et puis on va vers une forme d'apaisement en passant par la colère. Donc elle va suivre ce chemin. Et les femmes de sa famille aussi, et son père, mais c'était la possibilité de se dire, chacun, chacune va choisir, il n'y a rien d'inscrit dans le marbre. La tante, c'est les addictions, c'est comment on fait face à son chagrin, on peut noyer ce chagrin, on peut se voiler la face, on peut s'anesthésier totalement. Donc c'est pour moi l'élément aqueux. ça peut être le sport, ça peut être la sueur, on peut aller s'abrutir le corps pour déconnecter le mental, ça peut être les larmes et la prostration, il y a tout ça en fait. Et donc ce que je voulais, c'est que le cercle familial montrait comment chacun, chacune va à sa manière avancer vers ce qu'on nomme voilà, la résilience, chacun, chacune à sa manière, à son rythme. Et parfois, c'est un parcours heureux et parfois, on reste tétanisé dans sa souffrance.
Vous parlez de l'élément à queue et je trouve ça important parce que ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. Il y a l'eau qui est évidemment présente du fait de la noyade de la mer, mais on pourrait parler de l'élément terre qui vient aussi de la pratique sportive de Nice. Nice, elle est reliée à la terre quelque part. Est-ce que c'était un pendant pour vous de l'élément eau, de la faire courir ?
J'y ai pas pensé en ces termes. Moi, l'eau m'est plutôt arrivée comme les recueils de poésie d'avant, c'est plutôt l'élément feu. Il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de revendications. Et là, pendant le confinement, moi, j'ai senti une espèce d'appel de la verticalité, complexification de la pensée, avec un moment où il faut s'asseoir dans le canapé et ne plus être sur les barricades. Et donc, du coup, il y a comme un glissement vers un autre élément. Quelque chose de plus calme, de plus apaisé, mais effectivement Eunice, elle est sur la terre parce que c'est une athlète, elle a 19 ans, elle court, elle fait de l'athlétisme, donc elle est, c'est une jeune fille de son temps, c'est une jeune fille qui taquine avec ses baskets, avec ses spikes, les tartans, c'est comme ça qu'elle va un peu retrouver du sens, et c'est aussi une jeune fille qui à un moment donné, découvrant les ateliers d'écriture et le slam, le micro ouvert, va devoir être debout là, prendre un micro et s'ancrer dans le sol, retrouver une force par les racines pour pouvoir retrouver du sens.
Il y a des très beaux passages, je trouve, sur sa pratique de la course à pied et notamment dans le cadre de la compétition. Comment est-ce qu'elle vit ce milieu très compétitif qui est de l'athlétisme chez les très jeunes personnes? Elle n'a pas forcément le corps d'une grande athlète. Justement, je trouve que vous la positionnez très bien dans ce monde où il faut toujours jouer des coudes, il faut toujours être la première. On pense alors évidemment à Eunice Barber. Quelle a été l'influence de cette figure de l'athlétisme français pour vous ?
Bah déjà le nom, même si Eunice à la base ce n'était pas Eunice Barber, c'était bon, qui a été magnifique heptathlonienne, mais aussi magnifique sauteuse en longueur. Moi, j'avais une fascination, quand j'ai fait de l'athlétisme moi-même jeune, j'avais une fascination pour les athlètes, les heptathloniennes, heptathloniens et décathloniens aussi, qui sont à la fois champions du monde dans leurs 7 ou 10 disciplines, mais aussi dans une discipline particulière. Eunice Barber a été assez musculeuse, assez masculine, avec des piercings assez... elle était impressionnante, un peu queer, comme on dit aujourd'hui, avant l'heure. Donc elle m'a fascinée jeune, mais surtout Eunice, c'est le premier prénom et le vrai prénom de Nina Simone. Et voilà, c'est par là. Ma fille s'appelle Simone, je voulais l'appeler Eunice, mais il faut être deux pour choisir un prénom. Donc elle s'appelle Simone et pas Eunice, et donc je pense que tout ça travaille. Et finalement, ça revient là. Et puis après, j'ai appris dans l'étymologie, parce que je viens de Belgique, vous savez, je garde un petit côté, même à l'intérieur de la Belgique, je suis un peu excentrée, provinciale, je viens de Liège, vous entendez peut-être mon accent, et on a comme une peur quand on vient en France, notamment sur les radios, quand on va sur France Inter, France Culture, parce qu'en France, il faut avoir un avis sur tout. Sur tout le panthéon littéraire et aussi sur l'étymologie. J'ai une amie, quand on a choisi le titre Eunice, qui m'a dit « Oui, mais est-ce que tu connais l'étymologie du prénom ?» Parce que tu vas voir, on va te poser cette question. Donc c'est là que j'ai vu que c'était voilà, la victoire. Et, voilà.
Et c'est bien parce que finalement, ça rejoignait un des sens. Oui. Et c'est agréable de découvrir ça.
On réinjecte du sens, comme en poésie, comme dans les synchronicités, on réinjecte du sens après. Quoi.
Juste un petit mot encore sur la course à pied. Il y a eu beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui ont parlé de leur pratique sportive. Et la course à pied est un des sports assez prisés de ceux qui écrivent. Est-ce que vous, qui avez pratiqué l'athlétisme, vous faites ce parallèle? Est-ce que pendant l'écriture, vous êtes plutôt une marathonienne, une sprinteuse? Comment ça se passe vraiment la pratique, l'écriture du livre? Vous avez parlé du confinement. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est laborieux? Est-ce que c'est un jet immédiat?
Alors le lien que je fais, j'ai la chance d'avoir comme éditrice de poésie en France aux éditions Iconopop, Cécile Coulon, qui est romancière, poétesse, mais qui est aussi une grande férue de course à pied, qui écrit d'ailleurs un petit traité sur cette pratique. Dans l'écriture, alors en slam, on a une écriture qu'on dit pugnace, parfois c'est comparé à la boxe, on dit que c'est une écriture qui cogne. Et moi j'utilise plus la course parce qu'il y a cette question de souffle. Du slam, je garde ce qu'on appelle nous une urgence de dire. Donc dans l'écriture, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu nerveux parce qu'en fait on n'a que 3 minutes pour dire ce qu'on a à dire. Donc du coup, il y a quelque chose qui nous oblige à un peu tracer. Et tracer, c'est aussi un mot qu'on utilise dans la course. Je marche le matin, j'ai 2 techniques d'écriture. Principale. Pendant beaucoup de temps, j'ai été quelqu'un de la nuit, un peu comme la tante de Nice. Et j'ai cru que la nuit était le moment propice pour écrire, mais en fait, c'est un moment où ça se dilue. Et la question de l'alcool aussi, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'écriture, en tout cas du côté masculin, sur les addictions, et sur tout ce que ça peut ouvrir comme porte d'écriture. Donc j'ai cru que j'étais à cet endroit. Et puis tout d'un coup, avec le confinement, j'ai découvert l'écriture de l'aube. J'ai découvert à la faveur des insomnies ce bel endroit vers 4-5 heures du mat qui est d'autant plus magnifique en été là, l'automne, la baisse de la luminosité est en train de restreindre mon espace d'écriture et j'ai senti qu'à cet endroit là c'est le moment propice pour moi pour écrire. Donc j'ai 2 possibilités, soit je reste dans mon lit et je suis encore très proche des rêves, et en écriture automatique il y a comme un flux. Et voilà, ça vient tout seul, c'est comme si c'était pas tout à fait moi qui écrivais. Et je profite de cette vague-là pour écrire beaucoup, sans difficulté. Ou soit je vais marcher tôt, et là je me sature de... Voilà, tous les sens sont en éveil, et c'est comme quelque chose qui serait poreux, et donc les odeurs, les couleurs, les... Donc j'ai pas de notes, mais quand je reviens chez moi, je m'assieds vite à ma table d'écriture et tout d'un coup, ça jaillit aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'est chargé de... Enfin, tous les sens sont saturés et donc du coup, j'écris très vite. Et après cette phase d'écriture presque automatique, je laisse reposer un peu et puis j'y reviens dans la journée ou le lendemain. Je vais le passer à l'oral, je marche dans mon salon, comme les slameurs et les slameuses font, on est debout, on marche. On dirait que le texte descend, nous on dit le texte descend, il revient dans le ventre. Et puis là, nous, c'est toute notre écriture slam. Ça veut dire que si ça ralentit, ça veut dire que les phrases sont trop... Il y a un soufflet qui retombe, on va rechercher une forme de rythme. Si c'est trop serré, on sait qu'on peut ajouter de la matière à l'intérieur pour épaissir le texte. Mais donc, ça repasse par le corps, debout, par l'oralisation, et cela en plusieurs phases. Voilà, j'imprime mes feuilles, et puis je les repasse en bouche, en bouche, en bouche, en me disant que peut-être je devrais les dire à l'oral. Et donc c'est un texte, c'est un roman, mais c'est... D'ailleurs on a une lecture de 45 minutes avec Chloé Dutreffe, qui est musicienne. Il est sur scène, voilà.
On l'a entendu dans la lecture que vous avez fait tout à l'heure, c'est un tu. Donc le roman est écrit à la deuxième personne. C'est un mode qui n'est pas le plus courant dans la littérature romanesque. Ça interpelle immédiatement, c'est vraiment une mâchoire qui se referme sur le lecteur, se tue, puisque c'est une adresse immédiate, c'est une forme de bulle qui se crée entre vous, Lisette, et la personne qui est en train de vous lire, avec Eunice au milieu comme passement. D'où est-ce qu'il vient, ce tu? Est-ce que c'est encore un tu emprunté à la pratique du slam? Est-ce que c'était une manière de vous positionner par rapport à elle?
Oui, en tout cas en poésie orale, l'adresse est beau, c'est magnifique en poésie, les tu, les nous, quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans son propre texte, qu'on est en réel partage. Je pense que ça vient de là. Moi j'ai écrit de la poésie sur la dizaine d'années, les premiers textes de poésie portent déjà la trace du tu, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me semble pour moi très juste, parce que ça nous met à un endroit effectivement de... Il y a une narratrice qui harangue un peu le personnage, qui lui dit, qui encourage Eunice, qui lui dit fais ceci, fais cela. Donc ça peut parfois friser l'injonction, mais parfois c'est vraiment des encouragements bienveillants. C'est aussi comme nous-mêmes quand on se parle, allez fais ci, fais là. Quand on se parle à soi-même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je sais que dans mes procédés d'écriture poétique, j'aime beaucoup le mantra, j'aime l'incantation et donc le tu. Il y a quelque chose comme ça d'incantatoire. Je suis aussi collagiste et la partie graphique m'intéresse beaucoup. Là, Eunice, je l'ai écrit. Pour moi, c'est une écriture assez cinématographique. J'utilise cette image comme si on avait une caméra en Belgique. On a que vous connaissez peut-être aussi les frères Dardenne, qui ont gagné des palmes d'or à Cannes. Et dans le premier qu'ils avaient lancé, Rosetta, bah, ils suivent de très très près le personnage, c'est très serré, il y a une caméra épaule, il y a de ça avec le tu aussi.
D'ailleurs, le premier mot du livre, c'est coupé, c'est le titre du chapitre. Et juste après, il y a des phrases très courtes comme tu voudrais crever, tu vas t'assommer, donc ce qu'on a entendu, qui sont presque des didascalies en fait. En mars dernier, je crois, vous étiez en rencontre avec Diaty Diallo en Belgique. Diaty Diallo qui était présente ici l'année dernière. Moi, j'ai assisté à cette rencontre et vous parliez à l'époque des films et des influences, mais aussi des nourritures musicales, de la poésie qui vous faisaient du bien et qui vous ressourçaient. Justement, vous parlez du cinéma. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez en images ?
Oui, alors c'était pas une super rencontre. On était fatiguées toutes les deux, très fatiguées. Il y avait beaucoup de couacs techniques, donc on avait fait de notre mieux, mais n'en garde pas un souvenir. Voilà. Mais en même temps, on parlait avec cœur, donc voilà. En tout cas, je vois des... Nous, on utilise beaucoup en poésie le mot vision, pas au sens qu'on aurait quelque chose qui nous descendrait comme ça en verticalité, mais parce qu'on a des flashs. Par exemple, moi, si on me téléphone... En me proposant une commande de texte, on me donne le thème, je ferme les yeux 3 secondes, si je vois rien, en fait, j'accepte pas la commande. Il faut que j'ai vraiment une espèce de vision tout de suite, et qui est connectée avec l'intuition. Et donc, je sais qu'après, ça va être très très facile d'écrire si j'ai des images qui me viennent. Là, par exemple, tout à l'heure, dans la sieste littéraire, j'ai lu un texte sur la plaine, le PLAINE. C'est une commande pour une œuvre théâtrale. Et quand j'ai eu ce mot « la plaine », voilà, j'ai fermé les yeux, j'ai vu un clip de Mylène Farmer où il y avait à la fin du clip, je pense qu'elle s'échappe d'un goulag, je ne sais plus ce que c'est, comme, j'avais pas la musique, et puis elle voit une espèce d'immense, immensité blanche devant elle, et on se dit « mince, là, le fait de s'échapper, ben, c'est pas, voilà, c'est foutu, quoi ». Donc, et là, j'ai dit oui. Donc en fait, j'ai ça, et nous, en Belgique, on appelle ça, dans la région où j'habite, la vision, c'est magnifique, c'est très poétique, mais nous on appelle ça un stitch, c'est-à-dire une vision, mais un truc qui arrive de manière fulgurante. En mars est aussi sorti un album jeunesse qui s'appelait Enfant Poète. Là, moi j'étais couchée, j'étais le week-end, on rentre parfois chez ma mère à la campagne, et un dimanche matin, j'étais avec mon téléphone. On dort dans notre chambre d'ado avec ma sœur, il y a plein de lits gigognes, donc les enfants. Et nous-mêmes, on est là parfois comme ça le dimanche. Et j'étais couchée, j'étais à l'aube. Et j'ai écrit Enfant Poète, bam bam bim bam, en 20 minutes. Et puis quand ma sœur s'est levée, encore avec les yeux comme ça, j'ai dit, je crois que j'ai eu un stitch. Et en fait, c'est le texte est sorti. Et puis mon éditrice, chez Robert Laffont, on a un peu reciselé le texte pour le mettre à hauteur, notamment de personnes qui apprennent le français en langue étrangère. Et, mais il n'y avait quasi rien à changer. Donc, c'est ça, c'est des flashs, et après il faut les retraduire en mots.
Une épiphanie, parfois on peut dire, pour les plus habités. Je vais revenir au texte et au livre. Donc, Eunice se retrouve face à l'annonce et à la réalité de la mort de sa mère, et pour s'approprier cette nouvelle. elle va devoir mener sa propre enquête. Pour faire son deuil, elle va devoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et elle va découvrir des choses sur sa mère qu'elle ne connaissait pas. C'est le début d'un long cheminement pour elle qui va aussi, d'une certaine manière, la rapprocher de son père. Je voudrais peut-être qu'on dise un mot après sur la relation au père qui est vraiment très belle. Finalement, on dit souvent que ce sont les enfants qui nous échappent, mais les parents aussi nous échappent un peu.
Oui, on connaît peu ses parents, et là, c'est tout l'objet du livre. C'est un classique, hein, on ne connaît pas ses parents. En tout cas, là, la mère, en tant que femme, ça parle de ça, de qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on peut transmettre, qu'est-ce qu'on n'a pas intérêt à transmettre, parfois. Il n'y a pas de grand secret de famille, il y a effectivement des douleurs sur lesquelles on a mis des couvercles qui peuvent créer des névroses, mais c'est pas de l'ordre du spectaculaire. Il y a de la souffrance, elle s'inscrit sur un continuum des violences, mais pas du côté trash, du côté, voilà. C'est des violences sur lesquelles on met un couvercle, et donc du coup ça a des impacts aussi sur l'âge adulte. J'ai un peu oublié la question, pardon.
On ne connaît pas ses parents. Les parents nous échappent.
Voilà, les parents nous échappent. Et voilà, là, il faut se connecter. Moi aussi, je me suis connectée à ma propre mère. J'ai rencontré ma mère, en quelque sorte, quand je suis moi-même devenue mère. Il n'y a pas très longtemps, dans la cuisine, j'adore ces moments suspendus, intergénérationnels, comme ça. Il y a ma fille, il y a ma mère, je suis au mieux. Et ma mère a dit, parlé à ma fille, elle a dit un grand regret que j'ai quand j'étais jeune mère, c'est que j'avais la tête dans le guidon. Et donc, et en fait, l'entendant dire ça, j'ai pu dire à ma fille, bah, moi aussi en fait. Et j'ai compris cette expression, la tête dans le guidon, d'une femme qui a 3 enfants, qui ont 5 ans d'écart, qui est dans une génération de femmes qui prend très peu de temps pour elle. Ou quand elle le prend avec une grande culpabilité. Voilà, on est à cet endroit-là. Moi, je donne beaucoup d'ateliers en scolaire. On a un petit exercice comme ça. On fait un slam collectif. Je vais vous l'épargner aujourd'hui, mais la phrase commence comme ça. J'aurais aimé pour ma mère. Et on demande aux personnes, notamment aux jeunes, de poursuivre cette phrase. Et alors c'est beau parce que ça va de « j'aurais aimé pour ma mère qu'elle soit toujours en vie »,« j'aurais aimé pour ma mère qu'elle ne tombe pas malade »,« j'aurais aimé pour ma mère qu'elle désire un enfant »,« j'aurais aimé pour ma mère qu'elle ne rencontre jamais mon père »,« j'aurais aimé pour ma mère qu'elle sache cuisiner », voilà, il y a de tout, de la grande légèreté à la grande gravité. Mais par contre, quand on a fini l'exercice, il y a comme ça toute une génération de mères qui est convoquée. Et en fait, que vous fassiez l'exercice avec des jeunes au collège, au lycée, ou avec des personnes de vos âges ou de mon âge, on s'aperçoit quand même que le dénominateur commun, c'est qu'on a des femmes qui, dès qu'elles entrent en maternité, sont en sacrifice, souvent, sont en effacement d'elles-mêmes, sont en oubli de la femme qu'elles ont été, sont en mère courage. Voilà, il y a aussi des mères toxiques, il n'y a pas que des mères courage, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui est convoqué de cet ordre-là quand on fait cet exercice tout simple.
Ce que Anise va découvrir sur sa mère ne va pas forcément lui plaire. D'ailleurs, je précise que sa mère avait un nom, s'appelait Jeanne, mais qu'on appelait Jane. Et je trouve que là, on dit bien cette espèce de rêve d'échapper à son identité et parfois à son identité de mère, de ne pas être qu'une mère, mais d'avoir aussi une vie nocturne, une vie festive, une vie sociale. Comment est-ce que Eunice va encaisser ce qu'elle va découvrir et qui ne lui plaît pas?
Eunice, elle a 19 ans, elle va devoir rentrer au forceps dans le monde adulte, et elle n'en veut pas de ce monde adulte. Donc je pense que c'est ça, en tout cas en faisant cette enquête, parce qu'elle va, là je ne déflore rien de l'histoire, c'est à partir d'un agenda de sa mère et d'initial qui est dans cet agenda qui va la faire rentrer en enquête sur sa mère. Elle n'accepte pas, elle ne veut pas que sa mère soit une femme qui fasse la fête, qui ait des amis, qui ait effectivement cette vie nocturne. C'est comme un puzzle, donc chaque personne qu'elle va rencontrer, elle a une petite part de sa mère voilà, qui se recompose devant elle, et en fait ça la déstabilise beaucoup. Elle a comme ça une espèce de cuirasse, elle est assez revêche, elle est assez... c'est pas un personnage, il faut... Par exemple, moi, mon père, quand il a lu le livre, parce qu'il y a quand même aussi la question de la sexualité, j'ai quand même dit à mon père, il faut que tu passes le premier chapitre, puis après tu te laisses glisser comme sur un toboggan et tu vas glisser vers la tendresse. C'est pas un personnage... voilà, une éditrice qui avait recalé le texte me disait, ouais, tu prends pas assez les lecteurs, les lectrices par la main. Voilà, elle est revêche, elle a comme une cuirasse à l'intérieur, c'est tout tendre. C'est un grand appel à l'amour, mais elle a un endroit justement où elle se construit en réaction au monde des adultes. Elle n'a pas envie d'aller dans un travail plan-plan, elle n'a pas envie de, d'une sexualité pépère. Elle est, voilà, elle est à ce bel endroit qui est mort chez la plupart d'entre nous ici. On a nos âges et qu'on souhaite à nos enfants un grand endroit encore de liberté, mais contre... voilà. Elle n'a pas envie de devenir comme sa mère. Et c'est assez sain à 19 ans, je pense.
Vous avez parlé de la sexualité. C'est un thème qui vous est important de travailler et de relayer et d'exprimer, de verbaliser. Est-ce que vous seriez d'accord de lire le passage que j'ai choisi à ce sujet ?
C'est pas très sexuel, hein, je vous rassure.
Page 36. Alors, peut-être que je vais le recontextualiser, c'est à la fois un passage sur l'athlétisme et un passage où elle questionne sa sexualité.
Donc c'est un passage un peu plus long. Je vais commencer un peu plus tôt. En fait, elle va chez son ostéopathe. Voilà, elle est blessée à l'intérieur, mais elle est aussi blessée à l'extérieur. Et donc, tu t'excuses d'être venue un peu puante, presque en pyjama. Ton ostéopathe te répond que l'important, c'est d'être venu. Il te connaît bien. Il s'adresse à l'athlète, à la sprinteuse. Tes blessures ne mentent pas. Pubalgie, périostite, élongation, entorse. Chacune d'elles dit quelque chose de toi. Elle raconte entre quelles mains tu es passé avant d'atterrir dans ce cabinet. Elle raconte les infiltrations, les séances d'électrodes, les massages. Elle raconte comment chaque fois, pour des raisons qui t'appartiennent, tu as tardé à consulter. Comment tu laisses traîner les choses, comment tu forces. Elle raconte comment tu t'automédicamentes, comment tu carbures aux anti-inflammatoires et comment tu n'as pas encore appris à écouter les limites de ton corps. Déchirure des ligaments croisés du genou, claquage, fracture de fatigue. Tu ne capitules que lorsque la machine dit stop. Tes entraîneurs se précipitent alors à ton chevet comme si ce n'était pas eux qui avaient décidé de durcir ton travail foncier et d'augmenter toutes les charges à soulever à la salle de muscu au lendemain de ta 4e place aux 100 mètres au dernier championnat de Belgique. Sans le décès inopiné de ta mère, tu y serais encore, Eunice, à t'esquinter les vertèbres et les rotules pour grappiller quelques dixièmes de seconde. Mais voilà, un voile s'est déchiré net. Arrêtez la casse. Une vérité crue t'est apparue. Tu avais certes des qualités intrinsèques et une détente étonnante pour une fille d'1m69, mais tu manquais de vélocité et de puissance pour prétendre passer au niveau supérieur. Les heures accumulées sur le tartan, la répétition des mouvements, la constance, la sueur ne transforment pas une athlète au pied plat, souffrant de blessures multiples et d'un déficit criant de confiance en elle, en un espoir de la Ligue. Sélection naturelle. Les filles qui ont vraiment le potentiel pour participer aux Jeux Olympiques, on les repère presque dès le berceau, et tu ne fais pas partie de ces rares élus, Eunice. Tu le sais. Tes entraîneurs le savent, mais chacun de vous continue de nourrir les espoirs de l'autre. Tu envies cette sprinteuse flamande dont les parents tapent sur les balustrades comme des enragés en répétant « Come on, Mick, come on !» Tu envies cette sauce qui prend, ces encouragements qui boostent réellement et qui se traduisent par deux places gagnées sur la ligne d'arrivée. Les rares fois où tes parents ont trouvé le temps d'assister à l'une de tes compétitions, ça t'a fait exactement l'effet inverse. Les observer de loin, se faire chier dans les gradins entre deux épreuves, savoir que ton père aurait préféré accompagner ton frère à son tournoi de foot et qu'il avait fallu le traîner là de force, sentir ta mère dans le jugement par rapport aux autres parents, l'imaginer au bord de la syncope pendant ta course, tout cela te coupait les jambes. Tes pires résultats, tes parents en ont été témoins. Ils auraient mieux fait de rester à la maison plutôt que de t'imposer pour l'un ses bâillements et pour l'autre son stress à fleur de peau et ses critiques d'après-course. Leur mauvaise onde te fait perdre tous tes moyens. Leur présence contrarie tes plans de drague. D'habitude, entre les séries et la finale, tu as tout le loisir de mater les cuisses bronzées et les nuques musclées. Les beaux mecs et les belles nanas, ce n'est pas ça qui manque. Il y a ce sauteur en hauteur de gants, longs cheveux blonds qu'il attache avec délicatesse avant de prendre son élan. Il y a cette lanceuse de javelot du club de Namur, maillot jaune et bleu, déesse grecque sculpturale. Et ce coureur de 400 mètres est racé, élancé, avec ses lunettes retenues par des élastiques mauves. Et son entraîneur moustachu aux avant-bras tout tatoué. Et la mère de ta copine, avec son legging rose fluo qui moule ses lèvres. Camel tout. Appel de la vulve. Chaque stade devient une fosse de chattes en chaleur, de coureurs de jupons et de jeunes filles en fleurs. On est là pour concourir, pour gagner des médailles et des coupes, mais aussi pour mater, voir et être vu. Se chauffer à distance, faire le plein d'images de corps désirables pour la séance masturbatoire du soir, coulisses, festival off. Une fois tu t'es éclipsé de la compétition pour aller te faire peloter dans un vestiaire par un hurleur à qui tu avais tapé dans l'œil à un stage d'été. Une autre fois, c'est dans un bois adjacent au terrain d'échauffement que tu t'es embarqué pour une petite fellation à la sauvette. Eunice, tu laisses les commères traiter de pucelles les premières de classe. Tu laisses les jalouses traiter de salopes, les filles qui se comportent comme des mecs et qui enchaînent les coups. Tu laisses ces mêmes mecs penser que tu ne te respectes pas en leur pompant le dard. Tu sais que ce qui les emmerde, c'est d'être des numéros, eux aussi. Pourquoi s'agenouiller pour être prise en levrette ? Serait-il plus dégradant que de s'agenouiller pour prendre en levrette ? Pourquoi le tableau de chasse d'un Casanova serait-il plus prestigieux que celui d'une collectionneuse ? Pourquoi chaudasse ? Pourquoi acte dégradant ? Pourquoi souillure ? Pourquoi pas semence délicieuse ? Pourquoi pas pulsion de vie ? Pourquoi pas carpe diem ? Expérimentation, espièglerie, jeu, jeunesse, récréation, pourquoi pas ? C'est dur de lire à haute voix. En fait, on découvre les extraits en même temps que vous. Je trouve ça hyper dur parce que les parties justement qui touchent la sexualité, qui sont un peu plus trash, moi je les ai pas écrites pour les redire à haute voix. Et dans la lecture qu'on fait, je lis que les questions, en fait. Je lis que les questions qui sont là derrière. Je lis pas... voilà la première partie que vous avez entendue. Je lis que les questions parce que pour moi, ça, c'est l'enjeu de ce que se pose Ulysse. C'est-à-dire que comme elle a une sexualité, en fait, elle... vous savez, quand c'est la grande tristesse, elle va multiplier les expériences. C'est une manière de combler le vide. Donc elle se jette à corps perdu, c'est des ex, le premier qui veut, c'est un peu moche. On sait d'avance que c'est perdu d'avance et qu'on s'abîme très fort dans ce type de relation. Et en même temps, bah, c'est elle pour elle, c'est une manière de rester, voilà, de rester la tête hors de l'eau. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les questions, parce qu'en fait, effectivement, une sexualité comme ça, un peu débridée, un peu sossote. Bon, si elle avait été un garçon, qu'elle avait eu 19 ans, bon, on multiplie. Je reviens toujours sur les classes. Hein. Moi, quand je vais en lycée, je pose la question. Vous savez, en slam, quand j'ai commencé le slam, je fais une petite digression. Quand j'ai commencé le slam, sur les scènes, il y avait 10% de femmes. C'était un slam, voilà, une manière de partager de la poésie. Même si c'est ouvert à tout le monde, même si c'est gratuit, il n'y avait que 10% de femmes. Et Aujourd'hui, en Belgique en tout cas, c'est l'inverse. C'est massivement une pratique de poésie orale féminine. Et quand je vais dans les classes, en lycée, je pose la question aux jeunes et je dis ben, qu'est-ce qui explique que, et en France c'est encore ça, il y a encore une minorité de femmes, que dans les ateliers d'écriture, il y a 99% de femmes, majoritairement, massivement, ce sont des femmes, et puis quand il faut monter sur scène, il y a quelque chose, voilà, c'est quoi ce phénomène étrange, ou les concours, parce qu'il y a des concours de slam, c'est quoi ce phénomène étrange où tout d'un coup les femmes disparaissent en concours de poésie. Et c'est très étrange les réponses qu'on donne. Au Maroc, par exemple, j'étais face à des collégiens, il y a un petit garçon au premier rang qui a dit « parce qu'elles ont leurs règles ». J'étais devant, ils avaient groupé toutes les classes, et en fait, bon, ça a fait rire tout le monde, je pense qu'il y avait 200 collégiens, j'avais jamais entendu une réponse comme ça, mais il y avait un fond de vérité dans ce qu'ils disaient, parce qu'elles ont leurs règles. Et là, les lycéens, avec eux, on travaille ceci, on travaille le fait que l'espace scénique est un grand continuum de l'espace sociétal. Là-bas, on a l'impression qu'il y a le mythe de l'égalité acquise, donc du coup, quand on monte sur scène, si vous voulez, si vous avez une parole pugnace, politiquement engagée, si vous êtes une femme, on va dire que vous êtes hystérique, un peu folle, vous faites peur, même le public va avoir l'impression que ça cogne un peu trop, alors que si vous êtes un homme, la voix grave, il y a quelque chose, il envoie la sauce, il balance son texte, enfin, c'est des expressions, il est là, quoi. Et on travaille ça, et je dis alors à ce moment-là aux lycéens, ben, vous voyez, dans votre classe, comment appelle-t-on, donc ils sont plus âgés, hein, comment appelle-t-on un garçon qui multiplie les conquêtes parmi vous, qui a son petit succès, ils réfléchissent un peu, et puis je dis, et comment appelle-t-on une fille dans votre classe, qui a son petit succès aussi? Ils réfléchissent un peu, et puis alors on leur dit, vous voyez, l'espace scénique, c'est la même chose, un même comportement, que vous soyez un garçon ou une fille, est perçu différemment, un même comportement. Ben, sur l'espace scénique, un même texte de slam, vous soyez un garçon ou une fille, est perçu différemment, et on travaille ça. Et dans Eunice, il y a de ça. Les questions là, qui se posent en disant acte pourquoi acte dégradant et pas finalement carpe diem, espièglerie, ça va se poser différemment, une sexualité libre, selon qu'on l'est une jeune fille ou un jeune garçon. Ça parle de ça.
Alors, je vous remercie d'avoir été au bout de cette lecture qui vous était peut-être pas la plus agréable. Moi, je vais vous dire aussi que j'avais choisi cet extrait parce qu'il est au début du livre et on voit en fait ce rapport extrêmement brutal qu'elle peut avoir à son propre corps, que ce soit dans le sport ou dans la sexualité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un livre qui va vers la douceur. Et parmi les apprentissages et les victoires qu'elle va, si on veut parler de... Ça garde quelque chose de compétitif, la victoire, mais en tout cas parmi les acquis qu'elle va ramasser dans ses poches tout au cours du livre, et je ne vais pas donner les outils qu'elle va trouver, il faut lire pour ça, mais en tout cas elle va un petit peu retourner et reconsidérer, non pas que cette manière-là de pratiquer sa sexualité soit mauvaise, mais en tout cas elle va découvrir, elle va agrandir son éventail de pratiques. Et ça passe, j'ai l'impression, ça passe aussi par une tendresse qui n'est pas sexuelle, par une forme de sororité qui va plus loin que la sororité qui serait la delphité. Du coup, ça c'était important pour vous d'en parler, de sortir en fait de ce rapport critique et compétitif au corps.
Oui. En observant la jeune génération, comme je vous disais tout à l'heure, qui se créent des familles de cœur, et notamment, vous voyez, toutes les personnes en Belgique, quand on travaille avec des assos, ou, comment je veux dire ça, voilà, des jeunes qui annoncent à leurs parents leur homosexualité, qui sont foutus à la porte, ça oblige évidemment à se créer une famille de cœur avec des personnes qui vous ressemblent et qui vous acceptent tel que vous êtes. Et en fait, Eunice va un peu découvrir ça, c'est-à-dire qu'en dehors de sa famille de sang, elle va découvrir le formidable pouvoir de l'amitié, ses familles de cœur, des accélérateurs de particules comme ça dans la résilience. Elle va découvrir la tendresse, elle va découvrir ce corps qui n'a pas besoin d'être malmené, cette estime de soi qu'on peut réparer à tous âges. Et tant mieux si ça démarre tôt, on le souhaite aux jeunes générations, mais c'est pas grave si ça démarre plus tard aussi. Elle va découvrir ça en fait, et elle va, elle va s'apaiser. C'est pas du tout un jugement moral sur la manière dont elle entrait dans sa sexualité au départ du roman, mais il y a quelque chose qui va s'apaiser, tout simplement parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a des amitiés. Alors il y a quelque chose qui s'élargit dans le roman, c'est-à-dire la place que prend le désir, l'amour, et l'amitié qui va commencer à prendre beaucoup plus de place, et ça c'est plus une réflexion. Dans notre collectif, on a plus ou moins mon âge, moi j'ai 45 ans, on est plus ou moins de toutes des femmes de la quarantaine qui avons été éduquées aussi avec ce couple qui est notre saint Graal en fait, le mariage, le couple, la famille. Parfois on a délaissé nos amitiés et puis on voit que traversant les épreuves, des couples, on peut divorcer, on peut se séparer, mais on a des amitiés, nous, au long cours, qu'on a depuis la vingtaine, et on sait que c'est au finish, on sait que ça va aller au finish, en fait. Il y a quelque chose d'hyper stable, hyper rassurant, d'hyper pour l'estime de nous-mêmes. Voilà, quand ça chute là-bas, c'est très stable, et il y a une invitation à ça, une réflexion à se dire comment, parmi toutes les formes d'amour qui existent, celle-là, l'amitié, désintéressé. Voilà, pour nous soutenir au long cours, en fait.
Vous parlez de ce modèle de la famille nucléaire, en quelque sorte, dans laquelle a été un petit peu élevée Eunice. Elle va découvrir aussi d'autres modèles, notamment en discutant avec sa tante, qui va lui dire on n'est pas obligé de se marier ni de faire des enfants pour être heureux. Et petit à petit, elle va, encore une fois, cheminer dans ces différents modèles jusqu'à créer sa propre manière d'être heureuse. C'est une réflexion à la fois sur la famille qu'elle va mener à travers la situation de sa mère et avant elle, de sa grand-mère. Est-ce que de plaquer ces modèles plus ou moins épanouis, plus ou moins réussis sur plusieurs générations, c'était aussi une manière de dire ce que vous nous expliquez bien depuis le début de cette rencontre, c'est que ces regards évoluent au fur et à mesure de ces générations.
Oui, c'est ça. Voilà.
Non, peut-être je vais vous pousser un petit peu dans cette réflexion. Qu'est-ce que ça apportait pour vous de mettre à la fois la grand-mère et Eunice dans le même tableau romanesque ?
Ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était, voilà, je vous l'ai déjà dit, le fil. Oui, le fil. En fait, il y a quand même un fil qui réfléchit sur ça. Une forme de toxicité, voilà, de transmission de la toxicité, à un moment donné, un stop. Là, c'est Eunice. Et ça, c'est vrai que moi, dans ce que j'ai observé, il y a dans l'est du Congo, donc mon père est d'origine congolais. J'ai dit d'origine parce qu'il a vit tellement depuis longtemps en Belgique qu'il a une carte d'identité belge. Il y a dans l'est du Congo un docteur, un chirurgien qui s'appelle le docteur Mukwege, qui dit aussi, on dit aussi l'homme, il y a un documentaire d'ailleurs, l'homme qui répare les femmes contre des violences très graves, violences de guerre. Et à l'intérieur du documentaire, on voit à un moment donné toutes ces femmes qui viennent des villages alentours, qui ne sont absolument pas scolarisées, donc ça c'est vrai, elles viennent. On n'est pas un endroit réflexif, idéologique, on est un endroit de cœur. Et qui vont, entre l'aéroport et l'endroit où il revient, après la tentative d'assassinat, bon, ça crée des kilomètres en fait, de fil pour dire « reviens, on a besoin de toi pour aider ces femmes ». Et je sais que j'ai été fort marquée par ce qui est dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des femmes décident de faire barrage de leur corps et dire en fait « moi, j'ai subi ça, mais à partir de moi, c'est terminé. » Donc ça, c'est pas une question de diplôme, c'est vraiment une question de sentir dans son corps. Et il faut beaucoup de courage, d'autant plus dans des sociétés où... comment dire ? Oui, dans des sociétés patriarcales, mais on est aussi ici, en Europe, dans une société patriarcale. Je veux dire des sociétés où la dimension collective est très importante. Je prends l'exemple, nous on travaille avec notre collectif, on accompagne des femmes à dire en mots par exemple l'excision. Si vous voulez, de mon point de vue ici européen, je peux balayer ça d'un revers de main en disant bah oui, c'est horrible l'excision, Mais sauf que dans certaines sociétés, le poids du collectif, du groupe est tellement important que les femmes vont vous dire « si je veux me marier, il faut que ». Donc c'est beaucoup plus complexe. Et donc elles vont, par exemple, en Égypte, dire « on va passer par une excision médicale ». Voilà, ça se fait... Alors de nous, évidemment, vu de notre point de vue, on va dire un grand non face à cette horreur. Mais il y a des sociétés où il faut entendre que le mariage est encore très important, que se vivre hors de sa famille, c'est une infamie et c'est pas possible, que de faire un coming out, c'est impossible, alors que nous, on est ici dans des injonctions à se dire, à être soi-même, etc. Et donc, je perds un peu ma pensée, mais je me dis que ces femmes, dans ce documentaire que j'ai observé, à un moment donné, elles ont fait barrage de leur corps, elles ont dit, donc il faut un courage extrême de dire, en fait, après moi, c'est terminé. Et ça va avoir des conséquences, parce que quand vous entendez des slameuses sénégalaises qui vous disent, tant qu'on est dans la vingtaine, ça va, mais si on est artiste dans la trentaine, on ne pourra pas se marier, parce qu'on n'a pas envie d'être marié avec une artiste, on n'a pas envie d'être avec une danseuse, une rappeuse qui va sur scène. Mais donc si on n'est pas marié, ça veut dire dans la famille que donc on n'aura pas d'enfants et donc pas de maternité. Donc, donc c'est énorme. Et ces femmes-là, de dire, on s'en fout en fait. L'intégrité physique, morale, psychique de nos filles va être plus importante que la tradition, que la coutume, que le patriarcat. C'est colossal ce qu'elles font, ce qu'elles nous montrent comme exemple. Il y a un peu de ça entre les lignes. Là, ce que je vous livre, c'est pas ce qu'il y a dans le roman, c'est ce qui m'irrigue, moi, ce qui irrigue ma militance, mon combat, et qui fait qu'à un moment donné, quand on n'est pas dans le discours idéologique et qu'on bascule dans la fiction, il reste des traces de toutes ces réflexions-là entre les lignes, en fait.
Vous avez mentionné à plusieurs reprises les témoignages que vous avez recueillis en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. Est-ce que, à votre tour, écrire s'est transformé en action ces témoignages dont que vous recueillez au fil de des ateliers que vous animez, au fil des micros que vous prenez ou que vous entendez, est-ce que c'est une manière de vous inscrire dans ce fil de témoignages?
Ça, c'est compliqué comme question. En tout cas, je me dis que on a rigolé ce matin. Moi, je suis entourée de... Ce matin, je suis entourée de personnes très croyantes. Et vous voyez, moi, je peux avoir mes convictions. Je ne m'asserrai jamais sur la foi de quelqu'un parce que je suis entourée aussi de femmes qui, grâce à leur foi, soulèvent des montagnes, qui, grâce à leur foi, trouvent le courage de quitter des situations abominables aussi. Et ce matin, on rigolait parce que je dis à une amie, elle me dit, mais quand même, c'est beau de pouvoir écrire, de transformer en mots, c'est pas donné à tout le monde, c'est magnifique, cette capacité aussi en poésie de trouver une métaphore juste pour dire la singularité de ce qui nous traverse. Et je l'ai taquinée en disant, ah, mais c'est peut-être le Seigneur, en fait. Et on a rigolé parce que, en grand respect évidemment de sa foi, et elle-même, elle sait que si je ne suis pas à son endroit, je suis quand même connectée à une spiritualité. On a rigolé et en même temps, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on écrit des textes comme ça? Elle me disait parce que pour plus grand que nous, ça peut être ça, pour les générations après, pour que le chemin soit moins rocailleux aussi. Vous savez, les lectures, là, moi, je suis en train de... J'ai terminé le Neige, Sino, le Triste Tigre. On se prend une lecture comme ça dans le visage. On sait que les lectures, elles vont pas nous faire modifier des trajectoires, mais elles peuvent nous métamorphoser de manière très subtile. Et puis tout d'un coup, on écrit aussi pour ça. Moi, je sais que je m'inscris dans un courant de poésie engagée et que donc, on n'est pas là pour faire du pamphlet, on n'est pas là pour faire de la morale, mais on est peut-être là pour humblement, par les personnages qu'on choisit de mettre en scène, par les actions qu'on leur fait faire, de faire un petit travail subtil de représentativité, faire un petit travail subtil de frottement de stéréotypes aussi. Vous voyez qu'il y a des débats pour le moment sur Sensitive Reader sur les personnes qui peuvent aiguiller les écrivains, les écrivaines, pour que ces personnes ne choquent pas le lectorat, voilà. J'écoutais ce débat, qui est un débat très touchy, avec beaucoup d'attention, et parce que certains disent que c'est une censure, la fiction devrait être toute puissante, on devrait pouvoir dire tout ce qu'on veut, et de fait, dans Eunice, à un moment donné, il y a un fantasme un peu glauque, mais qui ne m'appartient pas du tout, mais où je me suis vraiment sentie romancière à cet endroit-là, parce que je me suis dit, là, oh, là, là, on a un personnage, c'est pas du tout moi, ce personnage. Et ça m'a fait naître romancière cet endroit, la fantasmatique du personnage. Et en même temps, je me dis, vous voyez, par exemple, à un moment donné, l'oncle de Nice, qui est vraiment un sale type, il est question de magazines porno. Et la première chose que j'ai écrite, j'ai dit que cet oncle regardait des magazines porno avec des hommes, dans un grenier. Et ce sont des pin-ups, ça s'est transformé, ce sont des femmes. Classiquement, le magazine porno hétéro avec des femmes, des seins siliconés. Et j'ai changé, vous savez pourquoi ? Parce que je me suis dit, en fait, si tout d'un coup cet oncle, je le fais devenir... homosexuel refoulé, ben je vais m'inscrire dans une littérature qui est écrite par des gens qui ne sont pas homosexuels et qui décrivent les homosexuels comme des gens qui ont des pathologies. Et donc c'est pas une censure, c'est pas une autocensure, c'est pas... Mais par contre je me suis connectée à un lectorat pour qui j'ai aussi envie d'écrire, et à des jeunes notamment, parce que le suicide ça reste quand même pour... l'orientation sexuelle, ça reste quand même la première cause de suicide chez les jeunes, c'est l'orientation sexuelle. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de ça ? Est-ce que j'ai envie, moi, que tout d'un coup, là, à un moment donné de mon livre, participer à une reconduction des stéréotypes concernant les personnes gays ? Ben non. Et en fait, ben, il est devenu un hétéro qui mate des... C'est quand même vachement plus commun de feuilleter voilà, du porno hétéro. Et c'est la même chose dans un autre livre, Vénus Poetica, le court roman, justement, en Belgique. Là, il s'agissait d'une jeune femme qui allait au cinéma avec un homme plus âgé. Voilà, ça parlait de ça, qu'à un moment donné, elle se dit, bah, j'assume, je suis avec cet homme plus âgé, plus riche, et c'est une personne qui a ma couleur de peau. Elle se dit, mince, bah, ça va activer des stéréotypes, parce qu'une jeune métisse, un vieux blanc, on est parti directement sur... l'exotisation, et elle va croiser sur le chemin vers le cinéma des jeunes sur un banc, et au départ j'avais écrit que ces jeunes étaient maghrébins, parce que dans la réalité, ayant vécu cette situation-là, c'était des jeunes maghrébins. Et puis là je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que c'est très important qu'on sache ça, même si c'était ça dans la réalité, et si j'enlève ce mot, qu'est-ce que ça va faire au livre, et si je le laisse, qu'est-ce que ça va faire, si je le laisse en fait, ça reproduit un stéréotype des jeunes maghrébins qui sont sur un banc, désœuvrés, etc., et qui vont faire du harcèlement sexuel à une jeune fille qui passe. Et donc, en fait, c'est un endroit, pour moi, je m'inscris là-dedans, dans une poésie engagée. La poésie engagée, ça veut juste dire d'être à un moment donné dans son écriture, c'est pas faire de l'autocensure, c'est de se connecter vraiment à un lectorat et de se dire comment je participe à ce grand mouvement de force progressiste qui permet à une jeunesse, justement, de se vivre avec plus d'estime d'elle-même, ou comment je décide, et c'est bien encore un droit, comment je décide de faire la fiction que j'appelle toute puissante, c'est-à-dire de ne pas me poser cette question-là, de me dire, et ce serait bien mon droit aussi, de me dire je m'en fous en fait. J'ai le droit de dire ce que je veux dans la fiction parce que c'est de la fiction, mais j'ai l'impression que je ne peux pas, vu mon parcours, vu le fait que je suis une femme, que je suis une mère, que je suis racisée, que je suis issue des classes populaires, je ne pourrais pas totalement être à cet endroit de fiction toute puissante.
Voilà. Merci beaucoup Lisette. Je rappelle que Eunice est sur la liste du prix Médicis. Félicitations. Je voudrais dire aussi que vous publiez à cette rentrée un magnifique livre pour enfants, mais pas du tout que pour enfants, qui est... Enfin, je vous laisse le découvrir, je l'ai lu avec grand plaisir, à hauteur d'enfants. que vous allez dans quelques instants venir vous asseoir ici pour dédicacer votre livre pour ceux qui veulent. Et je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions ? Non. Alors, s'il y a des questions... S'il y a des questions, vous pouvez venir faire la queue pour la dédicace et vous les aurez, vous nous raconterez les réponses. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.